Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode d'À l'ombre du festival, notre podcast d'entretien cannois chez Criticat. Aujourd'hui, je suis avec Gérald Duchossois. Bonjour Gérald.
Bonjour Lucas.
Donc Gérald, vous êtes le responsable de la section Cannes Classics dédiée au cinéma de patrimoine. Donc je voulais vous demander simplement au début de nous présenter pour vous ce qu'est Cannes Classics.
Alors Cannes Classics, c'est une section qui a été créée en 2004 par Thierry Frémaux, qui, fort de son expérience à l'Institut Lumière, dont il est le directeur, a souhaité faire entrer pleinement le cinéma de patrimoine au sein du Festival de Cannes. Au fur et à mesure des années, la section a évolué pour éviter de faire un historique qui soit trop long. La section se compose de films restaurés, de documentaires de cinéma qui traitent de l'histoire du cinéma, qui rend hommage aux artistes, et puis de plus en plus aussi de films récents qui entrent dans une sélection que l'on veut plus vivante, plus vivace, qui soit connecté à l'actualité, à la fois à l'histoire du cinéma et puis à des enjeux qui peuvent arriver à l'heure actuelle, politiques, économiques, sociaux, et que donc la section soit extrêmement riche aussi avec beaucoup d'hommages à des artistes, parce que le Festival de Cannes permet cela, et puis ça a toujours été dans les intentions du festival de rendre hommage à des grands créateurs.
Oui, alors effectivement, cette année, du coup, la sélection s'est ouverte avec la restauration du Labyrinthe de Pan, qui a même fait la pré-ouverture de Cannes, puisque vous êtes un petit peu la première séance qui ouvre Cannes le mardi avant même l'ouverture. Donc, moi, je voulais vous demander comment, comme vous le dites, il y a beaucoup de films, il y a beaucoup de copies restaurées, il y a aussi des documentaires, il y a même des courts-métrages aussi cette année. Comment vous élaborez une sélection Cannes Classics?
Voilà. Alors, on commence en fait à travailler véritablement à partir du mois de janvier. Donc on nous contacte pour des projets. Nous-mêmes sommes en lien avec beaucoup d'institutions, beaucoup d'entités, des archives, des cinémathèques, des studios, des catalogues, aussi parfois des distributeurs. Et donc à partir de là, si vous voulez, il y a un lien assez naturel qui se fait de discussions, d'entretiens, de propositions. Et puis aussi, il y a des propositions qui arrivent à brûle-pourpoint, c'est-à-dire des sociétés qu'on ne connaît pas, avec lesquelles nous ne sommes pas en contact, et qui nous envoient un mail, soit sur l'adresse générique de Cannes Classics, soit en trouvant nos coordonnées, et qui contactent Thierry Frémaux ou moi, ou parfois Christian Jeune aussi, le directeur du département film, et puis qui nous font des propositions de films, de documentaires ou de projets. Donc à partir de là, on commence à construire, on fait en sorte que les films soient inscrits officiellement. C'est toujours important de passer par la voie officielle. Et puis à partir de là, on commence à réfléchir, visionner aussi beaucoup, donner les règles du Festival de Cannes, donner notre intention aussi qui est capitale, qui est à chaque fois de créer l'événement. Donc ça peut être une nouvelle cinématographie qui est mise en avant, ça peut être une palme d'or qui est nouvellement restaurée, ça peut être un hommage à un artiste, ça peut être la présence d'un artiste qui souhaite venir, ça peut être un film qui est un coup de cœur aussi véritablement. Donc il y a beaucoup beaucoup d'aspects qui sont pris en compte et sur lesquels nous travaillons. Alors c'est à la fois un processus long et extrêmement rapide, donc parfois c'est très concentré, et en même temps on essaye de travailler sur le temps long, mais aussi qui soit pas aussi long que ça, parce que on s'inscrit dans une activité marché et dans une dynamique du cinéma de patrimoine, mais au sens large, pas uniquement les films, tout ce qui peut couvrir une ambition plus large, comme là cette année lorsque nous avons présenté Ken Russell's The Devils, donc de Ken Russell, donc le film de 1971 qui était un film marquant, qui a été censuré, et qui aussi annonce le lancement de Clockwork, qui est une nouvelle branche indépendante de chez Warner Bros. Discovery. Mm-hmm. Donc c'est là où on s'inscrit aussi dans un aspect marché qui est capital, parce qu'il y a ça aussi au Festival de Cannes. Le festival est à la fois une vitrine et aussi un marché.
Mm-hmm. Et pour ce qui est de, justement en particulier des copies restaurées, du coup vous recevez beaucoup de propositions en janvier. Est-ce que ça vous arrive de... est-ce qu'en fait vous êtes au courant de beaucoup de restaurations, de cinéastes qui sont en cours ou de films qui sont en cours. Et donc, vous les suivez de loin sur plusieurs années, puisque j'imagine que ce sont des temps longs. Est-ce que, par exemple, vous pouvez manifester votre intérêt assez tôt dans une restauration pour ce qui est d'un cinéaste en particulier qui va peut-être accélérer le processus? Donc, est-ce que déjà, peut-être, au niveau même au moment même de la restauration elle-même, est-ce que Cannes intervient et commence une espèce de petite sélection comme ça pour accélérer certains processus ou...
En fait, il y a tous les cas de figure. Il y a des entités, des sociétés qui nous tiennent au courant de nombreuses années à l'avance, notamment pour les documentaires ou des restaurations prestigieuses. Et puis, il y a des films ou des documentaires qui arrivent à la toute dernière minute, vraiment très très tardivement. Je pense au documentaire sur Michel Legrand l'année dernière qui était arrivé vraiment tout début avril, au moment où on commence véritablement à travailler à la sélection. Donc il y a tous les cas de figure. Et puis après, il y a aussi des films, par exemple le film Tilaï que nous avons montré cette année, ça fait 8 ans que je suis en contact avec la productrice. Donc il y a tous les cas de figure. Il y a des positionnements, il y a des intérêts qui sont manifestés. Parfois, c'est vrai que pour certaines restaurations, il m'arrive de faire des lettres officielles pour manifester notre intérêt. Ça ne veut pas dire qu'on va sélectionner les films obligatoirement. Néanmoins, ça donne un coup de pouce, ça aide en fait les sociétés qui font faire les restaurations ou les entités quand ce sont des archives ou des cinémathèques à faire restaurer des films. Mais il faut que ce soit des films qui soient importants à la fois thématiquement, esthétiquement, culturellement, aussi des films qui soient liés à l'histoire du Festival de Cannes. Donc ce sont des films que l'on estime être véritablement capitaux en fait pour une sélection potentielle.
Et donc, une fois les propositions reçues de restauration, etc., pour vous, l'enjeu, comme vous le disiez au début, c'est donc, avec Cannes Classic, de créer un petit peu l'événement et de vraiment, d'un coup, remettre en lumière un film ou un ou une cinéaste dont vous avez estimé que le travail méritait à ce moment-là d'être remis en lumière.
Oui, c'est l'idée effectivement sous-jacente, c'est de pouvoir permettre à certains films de retrouver la lumière à ce moment-là, de faire des focus aussi, comme on peut le faire avec Vittorio De Sica cette année, le réalisateur italien, et donc de remettre au goût du jour certains films que l'on aimerait voir retrouver le chemin des festivals, du grand écran, de la VOD, du Blu-ray. Parce qu'il faut voir que le cinéma de patrimoine est assez paradoxal, parce que il a une existence quand même assez. Dans certains pays, il est assez peu valorisé. Ça passe beaucoup par les archives, les cinémathèques. Et dans d'autres pays, il y a un véritable marché du cinéma de patrimoine, comme aux États-Unis, en France, au Royaume-Uni. Donc les films ressortent véritablement en salle. Il y a des distributeurs. Et puis il y a aussi beaucoup de pays où il y a des distributeurs d'art et essai, comme je pense par exemple au Portugal, à l'Espagne, où les distributeurs qui vont sortir le nouveau film par exemple de Carlos de pardon de qui on pourrait citer hein, par exemple ils pourraient sortir un film de Pedro Almodovar et à côté de ça ils vont sortir les films de Wong Kar-wai. Donc voilà, ça fait partie de leur catalogue et de la distribution parce que ce sont des films qui sont tellement chers au cœur des cinéphiles et notamment des plus jeunes que ce sont des films qui véritablement permettront de retrouver la salle. Et nous sommes à la fois à la croisée de ces ressorties événementielles comme peut l'être le Labyrinthe de Pan, puisqu'on célèbre le 20e anniversaire du film, et puis aussi de films beaucoup plus anciens comme la Symphonie Pastorale que l'on va montrer, qui est un film dont tout le monde connaît l'existence, enfin tout le monde, tous ceux qui s'intéressent tout du moins au cinéma, je pense même au-delà, puisque c'est un film qui est dans la culture populaire française assez fort. Néanmoins, je ne pense pas que le film ait été vu par beaucoup de monde ces derniers temps, et même des plus anciens ne l'ont pas forcément revu. Donc il y a un peu tous les cas de figure par rapport à cela, et puis aussi, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas uniquement un festival français, on ne montre pas que des films français, donc ça s'étend à une échelle extrêmement large vis-à-vis d'un cinéma mondial.
Et à partir de ça, à quel point est-ce que vous êtes présent, donc on a parlé en amont de comment vous receviez les films, à quel point vous êtes présent après les projections. Pour ce qui est des distributeurs, pour ce qui est d'essayer de sortir, d'accompagner ces films jusqu'au bout, on va dire, pour qu'ils ressortent vraiment en salle ou qu'ils soient représentés ou qu'ils soient réédités, etc. Est-ce que c'est des choses que vous suivez derrière aussi?
Oui, effectivement, on les suit, on aimerait pouvoir les accompagner plus, mais le travail est tel qu'au bout d'un moment, l'équipe est toute petite à Cannes Classics. Il faut savoir que c'est Thierry Frémaux et moi qui sommes les deux personnes en fait à nous occuper de la section, donc il y a beaucoup beaucoup de travail. Après, il y a une équipe qui se constitue à Cannes qui vient m'épauler, mais uniquement pendant la préparation du festival, une semaine avant, et après pendant le festival. Et hormis cela, je suis tout seul en fait à travailler avec Thierry, donc il y a beaucoup de travail, et j'aimerais pouvoir accompagner les films plus. Donc quand je suis invité à le faire, quand on me propose d'aller présenter des films, je le fais vraiment avec grand plaisir. J'avais par exemple fait le bonus Les guêpes sont là, d'un Blu-ray que Carlotta Film avait ressorti, un film sri-lankais voilà, qui était cher à mon cœur. Bon, donc j'essaye effectivement d'accompagner les films. Thierry aussi, à certains présente des films. Néanmoins, il faut savoir qu'après, il faut aussi que les films trouvent leur vie par eux-mêmes. C'est ça qui est. Cannes, c'est une vitrine, c'est un envol. Néanmoins, il faut qu'il soit soutenu après par des sociétés, des entités qui soient assez fortes pour donner vie et pouvoir construire sur le long terme la vie d'un film de patrimoine qui va continuer à vivre. Pareil pour les documentaires, beaucoup de documentaires de cinéma, pardon, sont vus dans les festivals parce que une exploitation sale est très difficile. Moi, je vous parlais du Michel Legrand, lui a véritablement eu une vie à l'international, ce qui est énorme, mais parce qu'il a été accompagné par un vrai producteur, parce qu'il y avait un réalisateur qui était très impliqué, qui avait passé 7 ans dessus. J'espère que ça sera la même chose pour Une vie manifeste, qui est un film ou L'âge d'or, qui sont des films qui peuvent exister par eux-mêmes, à mon avis, en salle, et qui, je l'espère, trouveront un public à l'international également.
Pour parler des enjeux un petit peu de la restauration et notamment de la question du patrimoine, aujourd'hui, bon, Cannes, c'est probablement le plus gros festival au monde, donc forcément, une section patrimoine au Festival de Cannes sera aussi très regardée pour ce qui est du cinéma qu'on appelle de patrimoine et restaurer, choisir pour vous de mettre en avant tel film ou tel cinéaste, etc., n'est pas forcément complètement neutre, que ce soit en termes politiquement ou esthétiquement, en termes de représentation, etc., par exemple. Donc, à ce sujet, par exemple, de la représentation ou du politique, on va dire, est-ce que vous vous sentez une responsabilité à l'échelle de Cannes Classiques dans les choix de films qui sont montrés, par exemple, je ne sais pas, pour mettre en avant aujourd'hui des films réalisés par des femmes ou par des cinéastes non occidentaux, essayer de mettre en lumière aussi d'autres noms, on va dire, parce que bien évidemment, il y a des très grands noms aujourd'hui encore qui sont là, mais il y a aussi peut-être d'autres noms moins connus. Donc est-ce que pour vous, vous vous sentez un rôle important aussi là-dessus?
Alors, il y a deux pans sur lesquels on pourrait réfléchir là tout de suite. La première, c'est la représentativité en fait d'une cinématographie plus mondiale qui s'ouvrirait au monde véritablement. Ça fait plusieurs années qu'on travaille à l'ouverture vers le cinéma indien qui pour nous est capital. Ça fait partie vraiment d'une histoire du cinéma que l'on doit véritablement découvrir ou redécouvrir, hein, parce qu'il y a des festivals comme je pense au trois continents, par exemple à Nantes, qui ont travaillé dessus depuis des années. Néanmoins, cela permet à des films après d'avoir une visibilité plus international. Là, ça doit faire 5 ans, oui, qu'on sélectionne un film indien à Cannes Classics et qui, à chaque fois, après, sont vus dans de nombreux festivals, ressortent en Blu-ray. Enfin, il y a un véritable travail qui est fait. Et c'est aussi parce qu'on a trouvé le bon interlocuteur avec la Film Heritage Foundation qui fait un travail extraordinaire en allant retrouver des copies, des négatifs un peu partout, parfois dans des conditions ubuesques, véritablement. Je reçois des photos où ils sont dans des décharges ou sous des ponts d'autoroute avec des maisons qui sont construites avec des bobines, enfin c'est complètement improbable, hein, véritablement. Les archives, les Asian Film Archives, qui travaillent notamment sur le cinéma sri-lankais et qui va chercher des bobines qui sont pareilles, qui servent d'escalier à certains moments. Enfin, c'est complètement fou de voir que ces films sont des chefs-d'œuvre et qui sont laissés dans des conditions catastrophiques, hein, pour le voilà pour pour la sauvegarde véritablement du cinéma. Donc on travaille à cela. Aussi beaucoup, nous avons beaucoup d'intérêt pour le cinéma sud-américain. Là, ça fait plusieurs années aussi qu'on peut sélectionner des films argentins. Qui était en compétition à Cannes. Le cinéma argentin était vraiment très très fort à l'échelle mondiale, un peu comme le cinéma mexicain. Il y avait une grosse production, il y avait 300 studios dans les années 50. Aujourd'hui, il en reste un. C'est totalement improbable. Donc effectivement, travailler à l'histoire, comment dire, à la redécouverte de l'histoire du cinéma, c'est aussi travailler à cette volonté d'aller vers des territoires qui ne sont pas inexplorés. Il ne faut pas exagérer, hein. Il y a des archives, des cinémathèques qui se sont penchées dessus. Néanmoins, avec les restes, ça permet de les remettre en valeur et après de faire que des initiatives soient déclenchées grâce à cela. Voilà, il y a aussi retravailler sur le grand cinéma italien qui a été tant aimé et qui était probablement le plus grand à une certaine époque, le plus grand au monde, je pense. C'est ce qu'on fait. L'année dernière, on n'avait malheureusement pas de film italien. Cette année, on en a 3. Donc voilà, c'est le bonheur. Quand on aime le cinéma, ça veut dire qu'effectivement, on a cet éclat qui transparaît grâce au Festival de Cannes. Et au-delà de cela, on essaye d'aller véritablement dans un grand nombre de pays vers l'Asie, avec le Japon, qui est un des piliers du cinéma, qui a une énorme production toujours à l'heure actuelle, hein, qui produit plus de films que la France. Et donc, ça nous permet de choisir. Là, on avait Super Express 109 sur la plage hier soir. Aujourd'hui, on va montrer La Légende du Grand Judo, qui est le premier film d'Akira Kurosawa. Donc ça, on y travaille beaucoup. C'est-à-dire, quand vous me demandiez si on mène des initiatives pour que les films soient restaurés, oui, pour La Légende du Grand Judo, ça fait 4 ans que je cours après la taupe pour qu'il restaure le film. Donc je leur ai fait des lettres à n'en plus finir, et là ça a fini par payer puisque le film est restauré, il est magnifique, et donc on va pouvoir le revoir dans des conditions exceptionnelles cet après-midi en salle Buñuel. Donc il y a de nombreuses initiatives qui sont déclenchées, non pas grâce au Festival de Cannes, mais en fait grâce aux liens qui sont noués avec les sociétés, avec les producteurs et avec des entités aussi, des archives, des cinémathèques qui sont capitales, hein, qui font un travail extraordinaire et qu'on se réjouit d'accueillir tous les ans au festival, comme là cette année avec Cinémathèque, la Cinémathèque belge, pourra montrer un film, Les Mouettes meurent au port, un film de 1955 qui était aussi en compétition à Cannes. Vous voyez, voilà, il y a toujours un lien, souvent, pas toujours, mais souvent avec l'histoire du Festival de Cannes, mais qui je pense est nécessaire pour faire vivre aussi à la fois l'histoire du cinéma mondial et l'histoire du festival. Et le deuxième pan, c'est la représentativité. Ça, c'est une chose qu'on a toujours en tête. Le fait de pouvoir faire découvrir des réalisatrices ou redécouvrir. Mais là, dans le cas de cette année, c'est vraiment découvrir, je pense, parce que j'ai été contacté il y a plusieurs années par une universitaire qui m'a... Je reçois souvent des propositions d'enfants ou d'artistes parfois en direct qui veulent faire redécouvrir leurs films. La plupart du temps, les films ont disparu et souvent, c'est à raison. Les films, à mon sens, en tout cas, ne sont pas au niveau de ce qu'on peut vouloir à l'heure actuelle. C'est toujours assez délicat, hein, d'exprimer ça à des enfants de cinéastes, à des cinéastes eux-mêmes ou même à des sociétés avec qui on peut avoir des contacts. Bon, mais ça fait partie du travail. Et là, j'ai été contacté par une universitaire grecque il y a quelques années. Ça doit faire 5 ans, je pense. Et elle m'a envoyé un film que j'ai trouvé extraordinaire. Un mélange entre... un film de Maria Plita, Eva, qui m'a semblé être un mélange entre La Pointe Courte d'Agnès Varda et un film de Jean Grémillon. Donc vraiment, j'étais estomaqué. Je me suis dit, mais c'est fou que cette cinéaste ne soit pas reconnue. Comment ça se fait qu'on la connaisse pas, qu'il n'y ait pas de visibilité ? Et à partir de là, j'ai fait une lettre effectivement pour la soutenir. Donc elle a pu aller chercher des fonds. Je l'ai mise en contact là, avec la Film Foundation de Martin Scorsese. Et donc, tout le monde a été effectivement sur la même longueur d'onde que moi, et le film a pu être restauré, donc on pourra le montrer à partir de lundi. Et j'espère véritablement que le film trouvera grâce aux yeux du public, et qu'il va pouvoir voyager en festival, qu'il y aura des achats aussi, parce que ça fait partie du jeu. Il faut financer ces restaurations, hein, donc au-delà de l'intérêt cinéphilique et de la passion qu'on peut avoir pour certains films, il faut que les films après vivent, au-delà de la vitrine que peut représenter Cannes. Pareil pour La Dérive. J'ai reçu le film il y a pas mal de mois maintenant, je pense. Ça doit faire quasiment un an. Et donc j'ai été estomaqué hein, quant à la qualité du film, le sens du cadre, la vision, l'oppression que pouvaient subir les femmes à une certaine époque, dans les années 60. Moi je suis né dans les années 70, hein, ma mère a grandi dans les années 60. Quand je vois ça, pour moi c'est un pan de ma vie que je vois à l'écran. Pas la mienne, mais en tout cas celle dont j'hérite. Et je me dis, il faut absolument montrer ça pour que les jeunes générations puissent découvrir, et j'estime en faire partie à ce moment-là, parce que pour moi c'est une partie de notre histoire, et ça me semble capital.
Et peut-être dernière question, probablement. On a parlé effectivement de représentativité des femmes, des non-occidentaux, etc. Idem, est-ce que vous pensez que esthétiquement, la restauration a son enjeu, c'est-à-dire que le cinéma de patrimoine, pour vous, est-ce que c'est aussi aller paradoxalement chercher des formes nouvelles chez des cinéastes, soit du passé qu'on connaît, soit qu'on connaît moins. Je pense par exemple à cette année à Artavas Pelechian, qui bénéficie d'une restauration et d'une séance, donc cinéaste arménien, qui sera présentée donc à Cannes cette année. Est-ce que la restauration et le cinéma de patrimoine chez Cannes Classics, c'est aussi aller vers des formes innovantes, des formes modernes qui peuvent nous amener plus loin à ce niveau-là aussi?
Oui, complètement. Je pense que pour aller vers la modernité, il faut se plonger dans le passé. Pour moi, quand les Rolling Stones inventent leur style, ce sont les héritiers du blues. Donc à partir de ce moment-là, ils se sont plongés dans une histoire de la musique et ils nous font découvrir leur version de ce qu'ils pouvaient écouter étant jeunes. Alors pardon, c'est une référence un peu ancienne, hein, bien évidemment, mais elle est valable à l'heure actuelle. Quand je vois des groupes, moi j'ai une fille qui a 14 ans, je l'accompagne à des concerts et elle va voir des groupes qui sont inspirés par les groupes avec lesquels j'ai grandi au début des années 90. Donc moi je c'est la musique que j'écoutais quand j'étais au lycée, les groupes que j'ai pu voir à l'Élysée Montmartre à Paris, et pour moi c'est la même chose en cinéma. Bon, je vous parle beaucoup de musique parce que j'adore la musique, donc pour moi ça fait partie entièrement de ce qu'on peut recevoir comme vecteur culturel. C'est capital parce qu'il y a une émotion forte qui s'en dégage, et pour moi le cinéma c'est un peu la même chose aussi. Et donc quand je vois ça, quand je vois là véritablement, c'est ce que je ressens, et la musique c'est un peu la même chose. Et quand je vois les films de Pelechian, pour moi c'est véritablement sensoriel, c'est-à-dire que ce que je vois à l'écran, c'est pleinement une espèce de vague en fait. Je me sens complètement emporté et j'ai l'impression d'être à nouveau sur une oui, véritablement, c'est pour moi c'est une pénétration de dans l'eau, quoi. C'est complètement fou en fait d'arriver avec cette sensation physique, sensorielle, visuelle, dans un autre monde, parce qu'on est aussi dans le documentaire, donc on découvre un autre monde, et ça permet aussi de réfléchir au cinéma actuel en permanence. C'est-à-dire que quand je vois des films récents, je réfléchis constamment en me disant, ah oui, Melville aurait fait ça, Le Sens du Cadre c'était plutôt ça, là moi j'ai plus envie de voir de caméra portée. Et quand je vois un film comme celui de, par exemple, de Skolimowski, Travail au noir, qu'on a passé cette année en sa présence, je me dis oui à cette époque-là, oui, ce travail sur le son, ou alors cette façon d'interpréter l'optique, ou les objectifs qu'il a pu utiliser. Et quand je vois les films de Paul Thomas Anderson à l'heure actuelle, eh bien en fait je retrouve ce dialogue en fait entre cinéma du passé, cinéma récent, voire cinéma du futur, hein. Et c'est la même chose quand on passe ce documentaire sur Chris Marker, Nostalgie du futur, où véritablement, voilà, et dans le titre en fait il y a cela. Et donc en travaillant sur le passé, on a envie d'aller vers le futur et on parle du présent. Donc en fait tout se mélange. Pour moi il n'y a pas de frontières. Et quand on rend un hommage à Bruce Dern ou que Mark Cousins va nous faire voyager dans les années 70 avec son superbe documentaire sur l'histoire du documentaire, justement, et qui va à travers le monde sur les révoltes populaires, politiques, et en fait ce sont celles qu'on affronte aujourd'hui, je pense que le patrimoine a vraiment toute sa carte à jouer, et on n'est pas du tout dans le passéisme, dans la nostalgie, dans le poussiéreux, on est dans le futur.
Bien, merci beaucoup Gérald pour
merci à vous.
Cet entretien. On se retrouve, nous, de notre côté, chez Criticat, bientôt pour un nouvel entretien dans l'ombre du festival. Merci encore.